diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour et merci d'être à l'écoute du programme en français de Radio Prague qui vous est présenté aujourd'hui par Magdalena Hrozinková. Dans cette émission, nous parlerons des ateliers de chant animés par la chanteuse aux origines tchéco-arabe Regina Ahmedova. Nous vous inviterons aussi à la bibliothèque municipale de Prague, sans oublier notre émission bimensuelle « Le tchèque du bout de la langue ». Regina Ahmedova n'a qu'un seul instrument de musique, sa voix. Elle la sculpte, la travaille et l'utilise comme d'autres se servent des narchés. Et elle transmet ce plaisir aux personnes qui participent à ses ateliers vocaux, qui souvent leur permettent de dépasser la classique peur d'utiliser sa voix ou de ne pas cantonner leur chant au petit matin sous la douche. Regina Ahmedova parvient à réveiller les qualités insoupçonnées d'une voix. Issue, comme son nom l'indique, d'une double culture, Anna Kubeshta lui a d'abord demandé comment il fallait l'appeler pour la présenter.
Culture sans frontières.
Vu que je vis à Prague, je préfère Ahmedova parce que sinon, quand on m'écrit souvent ça sur des affiches, je suis présentée comme Regina Ahmed. Je trouve que c'est un peu le jeu sur l'exotisme en République tchèque. C'est intéressant d'avoir un nom différent, d'avoir un nom qui ne sonne pas tchèque. Donc je préfère Ahmedova parce qu'en fait, c'est un peu de l'hypocrisie parce que je vis ici, je suis née ici. Donc je parle tchèque, donc je suis Ahmedova.
Si je vous demande ça, c'est parce que votre père est d'origine soudanaise, votre mère est d'origine tchèque, donc ça fait de vous une tchéco-soudanaise. Pour quelqu'un qui grandit en République tchèque, vous n'avez pas, on y reviendra après, vous n'avez pas totalement grandi uniquement en République tchèque, mais disons qu'il vit une bonne partie de sa vie en République tchèque. Qu'est-ce que ça représente de grandir avec cette double culture
C'était pas évident quand j'avais 14 ans et quand même avant en fait, parce qu'on vivait en Algérie. De mes 4 jusqu'à mes 14 ans, je vivais en Algérie, mais on venait chaque fois pour les vacances à Prague. Et donc j'étais en contact avec les enfants ici de mon âge, et c'est vrai qu'ils étaient assez racistes. Et souvent, j'observais que donc j'étais pas acceptée pour la couleur de ma peau, pourtant je suis pas noire, je suis pas très sombre, mais on voit une petite différence par rapport aux enfants. À l'époque, dans l'époque du communisme, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers ici, donc vraiment c'était déjà quelque chose qui était bizarre, que j'ai un teint un peu plus bronzé. Et donc souvent, je me faisais attaquer verbalement.
Est-ce qu'on vous prenait pour une Rome, par exemple ?
Aussi, mais surtout, ils disaient, regarde, elle est sombre, elle est sale, je joue pas avec elle. On m'appelait charbon, des trucs comme ça. À l'époque, quand j'étais petite, ça me faisait vraiment mal.
Les enfants sont vraiment très cruels, en général.
Oui, surtout les enfants ici qui ne connaissaient pas d'autres personnes qui pouvaient avoir un teint différent, sauf les Romains, les Tziganes, qui étaient toujours les victimes de racisme. C'était pas, de ce point de vue-là, c'était pas facile. Mais sinon, ouais, c'était bien.
Alors, vous disiez justement que vous avez grandi en Algérie. Comment est-ce que vos parents se sont retrouvés là-bas, en fait? Et puis, alors, comment était votre enfance, vous, en Algérie?
Mais mon père a étudié à Prague. Il a été choisi comme un bon élève, et donc on voyait à l'université à Prague. À l'époque, il faisait des études d'économie parce qu'il voulait retourner au Soudan pour aider le pays, idéaliste bien sûr, jeune, mais tout s'est passé d'une façon différente, comme ça se passe souvent comme ça. Il a rencontré ma mère ici et ils sont restés ensemble, et ensuite parce qu'il ne parlait pas tchèque et justement parce qu'il était différent, donc il est noir, c'était pas quelque chose d'habituel encore dans les années 70 à Prague. Il a reçu l'invitation, il a été invité à enseigner à l'université à Oran en Algérie, et donc on est parti là-bas toute la famille.
Et votre enfance en Algérie, c'était comment?
C'était très joli. J'ai des très beaux souvenirs. J'étais dans le lycée Pasteur, qui est une école à Oran internationale. Donc j'étais en contact avec les enfants de beaucoup de pays du monde. Donc c'était bien. C'était une enfance très tranquille dans une ville au bord de la mer. Moi la mer me manque. Tout le reste de ma vie, la mer me manque. C'était très beau grandir au bord de la mer. La ville était paisible. À l'époque, l'Algérie était paisible.
Et alors, finalement, ces transitions entre l'Algérie, la Tchécoslovaquie, vous gériez comment à l'époque? Pour vous, c'était une chance? Est-ce que pour vous, la République, la Tchécoslovaquie, c'était un petit peu, je sais pas, par exemple, le pays rêvé, le deuxième pays vers lequel vous vouliez rentrer ou...
Je pense que même bien que j'étais encore petite, je me rendais compte qu'il y avait des avantages sur les deux côtés. Alors l'Algérie, c'était justement la mer, il faisait chaud, c'était des choses assez simples sur lesquelles je réfléchissais. Mais, et puis aussi une sorte de liberté d'esprit là-bas, parce que justement, comme je disais, j'étais dans un milieu très mixte, très varié.
International.
Donc, par rapport à ça, Prague, c'était un endroit où, bien sûr, j'avais beaucoup plus de liberté personnelle, parce qu'en Algérie, quand même, je partais en voiture à l'école et on me ramenait en voiture. Je n'avais pas beaucoup de temps libre pour moi-même. À Prague, je pouvais sortir toute seule. Ça, c'est, au niveau d'une liberté personnelle, je voyais que Prague, c'était beaucoup plus confortable, plus... C'est un pays qui est plus riche, donc il y a beaucoup plus de choix dans les magasins. Ce genre de choses, ça me paraissait bien. Mais quand en Tchécoslovaquie, je me suis rendu compte que c'était un pays où les gens ne se sentaient pas libres. Ils étaient assez renfermés sur eux-mêmes. C'était un endroit où, finalement, la vie n'était pas aussi plaisante qu'elle le paraissait quand je la regardais d'un pays de développement. Quand je regardais Prague de la République tchèque de loin ou juste superficiellement, ça me paraissait vraiment comme l'endroit, le paradis où je pouvais manger la glace, parce qu'en Algérie, je pouvais pas manger la glace à cause de la choléra, à cause de l'eau. Je voyais que ces choses-là. Quand je suis revenue ici, je me suis rendu compte qu'il y avait un niveau plus profond, que les gens n'avaient pas beaucoup de joie, ils avaient beaucoup de peur. C'est quand je suis rentrée au lycée que je me suis rendu compte de ça.
Alors tout ça, évidemment, ça a changé. Hein. La Tchécoslovaquie communiste n'existe plus. On est en République tchèque. Voilà, vous vivez une vie d'artiste ici, en République tchèque. Alors, je ne sais pas trop comment vous qualifiez, j'allais dire, une expérimentatrice de la voix. Comment est-ce que vous êtes arrivée déjà au chant, à la musique, à la composition? Et puis, est-ce que vous pourriez un petit peu décrire votre travail?
Je chante surtout solo, sans accompagnement. J'utilise une petite machine qui me permet de chanter plusieurs voix, de créer plusieurs voix en même temps. Donc ça, le son, c'est une sorte de polyphonie.
Une polyphonie, mais avec une seule personne.
Voilà, une polyphonie créée juste par une personne. Et tout est créé en réel. Ce n'est pas un enregistrement que j'amènerai avec moi au concert. Donc tout est live.
Donc la machine, en fait, vous entrez par exemple des données auparavant?
Non.
Comment ça marche?
Je crée une piste, je fais tra la na 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 et je le laisse jouer. Et ensuite j'ajoute d'autres pistes de son.
C'est plusieurs couches en fait de son comme voilà. Ça qui s'accumulent.
Voilà, c'est ça exactement.
Et comment est-ce que vous êtes arrivé à cet instrument, en tout cas à cette machine, comme vous dites, c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose que vous avez découvert, que vous vous êtes fait fabriquer?
C'est quelque chose qui existe. Moi, j'ai passé beaucoup d'années à chanter dans un groupe de jazz, ce qui était très bien. J'ai pris beaucoup d'expérience, mais j'avais quand même l'impression que c'était pas encore mon propre chemin musical. Et donc, je voulais faire de la musique solo. Et j'avais une grande motivation, mais en même temps, je ne joue pas d'instrument. Et donc, j'ai essayé de faire de cet inconvénient un avantage. Et j'ai commencé à travailler solo, donc avec cette machine qui me permettait de faire des chansons sur stage par moi-même. Au début, j'avais bien sûr très peur parce que bien que j'avais passé beaucoup d'années à faire des concerts, j'avais l'habitude d'être sur stage, mais tout à coup, j'avais très peur d'être toute seule là-bas. Donc, le premier projet que j'ai fait était avec projection pour me cacher un peu. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que les gens acceptaient très bien, que c'était quelque chose qui avait une force ou une intensité. Et donc, j'ai continué à faire des solos. Maintenant, après des années de solo, je commence un tout petit peu à recollaborer régulièrement. On prépare maintenant avec un projet avec un musicien qui joue de la contrebasse, juste contrebasse acoustique et voix. Mais toujours ce solo, c'est quelque chose qui est très fort pour moi.
quand on pense justement à la voix, alors on peut avoir plein d'associations d'idées. On pense à l'opéra, aux chanteuses d'opéra, aux grandes voix de l'opéra. On peut penser également au gospel. Puis j'ai lu quelque part que une des choses qui vous inspirait, en tout cas, c'était le chant du muezzin dans les mosquées. Tout ça, c'est un peu un espèce de mix qui vous inspire. Je sais pas, le gospel, vous dites évidemment que vous avez joué dans un groupe de jazz, les voix d'opéra aussi.
Non, en fait, l'opéra, pas beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de stylisation pour moi dans l'opéra. Moi, ce qui m'inspire, c'est plutôt quand je sens une certaine spiritualité à travers la voix, quelque chose qui est cru, qui est instantané, qui va directement, oui, de l'intérieur, de l'âme. Donc, le chant opéra, souvent, il y a beaucoup trop de stylisation pour moi. C'est un style, c'est beaucoup trop de style. Moi, ce qui m'inspire, c'est, bien sûr, il est important de maîtriser la voix, d'avoir une base de technique vocale. Mais en même temps, ce qui m'inspire, c'est quelque chose quand je sens que le chanteur s'inspire vraiment de son âme.
Alors, vous faites également des ateliers vocaux. Qui sont les personnes qui viennent chez vous?
Le genre de personnes qui viennent, c'est vraiment très varié. Il y a des jeunes, des personnes plus âgées, des étudiants, des professionnels de toutes sortes de professions, pas seulement des musiciens. Ou même les musiciens sont minorités. Les ateliers que je fais, j'ai commencé à les faire parce que beaucoup de gens me demandaient si je voudrais donner des cours de chant. Moi, je ne donne pas des cours de chant parce que je pense que donner des cours de chant, vraiment, on a besoin d'avoir une technique et exquise, d'avoir une très bonne technique vocale, parce que c'est très facile d'apprendre des erreurs. Au moment où l'enseignant ne maîtrise pas tout à fait sa technique vocale, il peut apprendre des choses qui sont mauvaises aux étudiants, et ensuite c'est très difficile de corriger. Donc c'est quelque chose que je ne veux pas faire encore. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, ce qui me fascine sur la voix, en fait, c'est que c'est vraiment un médium de joie.
De partage aussi.
Mais pour moi, c'est bien de partager, c'est très sain de partager. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'en fait, ça me libère, ça me donne la joie à moi-même.
Comment se déroule un atelier type avec vos étudiants, vos élèves, en tout cas ces personnes qui viennent apprendre à interpréter, enfin en tout cas à jouer avec leur voix?
Souvent, beaucoup ou une partie des gens qui viennent, ce sont des gens qui ont une sorte de timidité d'utiliser leur voix. Ils ont envie, mais ils ont un peu peur parce que quand ils étaient petits, on leur a dit qu'ils ne chantaient pas bien à l'école ou les parents. Donc on commence très très doucement pour ne pas justement forcer. On travaille avec la respiration et ensuite on commence à travailler avec le son. Une grande partie de la journée, on travaille avec le son d'une manière qui n'est pas jugeable, je dirais. Ce sont des choses qui ne sont pas musique dans le sens propre du mot tel qu'on l'utilise. Ce sont des choses, beaucoup de jeux, des exercices. Et puis à la fin de la journée, quand justement à travers... on fait des choses amusantes, des choses où souvent les gens rient à travers justement une sorte de relaxation. Quand la tension part, c'est là qu'on commence à chanter. Donc c'est vers la fin de la journée, en fait. Souvent les ateliers sont d'une journée. On commence le matin à 9h, ou 10h, donc on finit à 5h30, disons.
Donc c'est une grosse journée.
C'est une grosse journée, et justement parce que c'est intense, on arrive vraiment à sentir une différence à la fin de la journée par rapport à l'état d'âme du début.
Merci Anna Kubishta pour ce magazine culturel consacré à la chanteuse Regina Ahmedova. Place maintenant au tchèque du bout de la langue. Guillaume Nerguez s'y penche sur un sujet récurrent aujourd'hui en Europe et c'est l'euro.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Nerguez.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem, milovníkům češtiny Rádia Praha.
Vous le savez, l'adoption de l'euro n'est toujours pas d'actualité en République tchèque. D'abord parce que celle-ci ne remplit pas les conditions pour adopter la monnaie européenne, mais aussi et surtout parce qu'il n'existe pas de réelle volonté politique. Outre les raisons économiques qui prévalent, les Tchèques restent aussi très attachés à leur monnaie, la couronne.
Koruna.
Et c'est justement à ce mot que nous allons nous intéresser dans cette nouvelle émission. Comme son nom l'indique, la couronne tchèque,
Koruna Česká,
est l'unité monétaire de la République tchèque. En 1993, année de la partition de la Tchécoslovaquie, la couronne tchèque, comme la couronne slovaque chez le voisin, a succédé à la couronne tchécoslovaque qui existait, elle, depuis 1918 et la fondation de la première République tchécoslovaque. Mais ce qui nous intéresse d'un point de vue linguistique est donc cette appellation de couronne. Pourquoi ce mot précisément a-t-il été choisi au lendemain de la Première Guerre mondiale pour désigner l'unité monétaire d'une Tchécoslovaquie qui venait juste d'apparaître sur la nouvelle carte du monde? La question est d'autant plus intéressante lorsque l'on sait que la couronne était déjà la monnaie existante sous l'Empire austro-hongrois. Il s'agissait alors de la couronne austro-hongroise qui, en 1892, avait remplacé le florin, aussi appelé gulden. Connaissant la volonté d'indépendance des Tchèques et des Slovaques à l'époque, on peut donc s'étonner qu'ils n'aient pas choisi une autre appellation pour leur monnaie. En fait, les Tchécoslovaques ont envisagé plusieurs appellations. C'est ainsi que les Tchécoslovaques auraient pu utiliser le franc tchécoslovaque,
Československý frank,
le faucon,
Sokol,
du nom du mouvement gymnique et patriotique, le lion,
lev,
le denier,
denar,
le hryvnia,
hryvna,
qui est aujourd'hui l'unité monétaire de l'Ukraine, le
rachin,
du nom du ministre des Finances de l'époque, ou encore, plus amusant encore, mais tout à fait véridique, la betterave.
Pas.
Finalement, la raison l'a emporté. Aucune de ces propositions n'a été retenue et pour préserver la continuité, la couronne, qui symbolisait pourtant l'empereur et Vienne, est restée la monnaie officielle du nouvel État tchécoslovaque. Presque paradoxalement, l'Autriche a, elle, abandonné sa monnaie impériale quelques années plus tard, en 1924, du fait de son importante dépréciation et de l'hyperinflation pour donner naissance au shilling. Mais revenons à cette couronne que les Tchèques aujourd'hui ne semblent pas disposés à abandonner pour l'euro. Intéressons-nous surtout aux façons pour le moins étranges qu'ont parfois les Tchèques de désigner une pièce de leur monnaie ou une somme d'argent en couronne. Ainsi, premier cas de figure, dans le langage populaire ou en argot, le chiffre 5
Petka
ne signifie pas 5 couronnes comme le voudrait la logique, mais 10 couronnes ou plus précisément une pièce de 10 couronnes. Il existe une raison à cela. En fait, ce mot est apparu au XIXe siècle, c'est-à-dire lorsque la Bohême et la Moravie appartenaient encore à l'Empire austro-hongrois. Ce petit mot trouve donc son origine dans la réforme monétaire qui s'est tenue dans l'Empire très précisément en 1892, date importante puisqu'elle marque, comme mentionné précédemment, la naissance et l'arrivée sur le marché de la nouvelle monnaie qu'est la couronne. Avant cela, l'unité monétaire utilisée était ce que les Tchèques appelaient le
zlatý,
un adjectif qui signifie « doré » ou en or. Ce mot
zlatý
désignait alors le florin autrichien gulden en allemand. Notons à ce propos que les pièces de monnaie et le florin étaient frappées en or à l'origine et que le mot
zlatý
est par conséquent sans aucun doute la traduction tchèque de gulden. Mais revenons à ce mot.
Petka.
En plus de rebaptiser la monnaie, la réforme de 1892 entraîna également une dévaluation puisque la valeur d'un florin était de 2 couronnes. Et c'est bien connu, les gens étant très conservateurs dans ces cas-là, comme ce fut le cas en France lors du passage de l'ancien au nouveau franc, puis du franc à l'euro, ils ont donc continué à calculer leur prix dans l'ancienne monnaie. Ainsi donc, une pièce de 2 couronnes restait un florin, aussi appelé
zlatka,
et 10 couronnes se disait donc
petka,
soit littéralement une pièce de 5. Et si vous vous posez la question légitime de savoir pourquoi seulement précisément 10 couronnes, sachez encore que c'est parce qu'avant la réforme, le billet d'une valeur de 5 florins était justement appelé
petka.
Et depuis donc, l'usage est resté dans le langage populaire. Ce n'est pas tout cependant. Les Tchèques appellent aussi
kilo,
soit 1 kilo, les billets d'une valeur de 100 couronnes et
litre,
soit 1 litre, les billets d'une valeur de 1000 couronnes. Mais la déception, un peu à notre surprise, nous avons cette fois découvert qu'il n'existait aucune explication digne de ce nom sur l'origine de ces mots curieux. Reste donc encore à évoquer le million de couronnes, pour lesquelles les Tchèques argotisants parlent de
melon,
soit un melon. Dans ce cas, on peut toutefois supposer qu'il en est ainsi du fait de la grande ressemblance phonétique qui existe entre les deux mots
million
et
melon.
Mais il ne s'agit là que d'une supposition, comme on peut supposer qu'il existe un autre rapport de taille, cette fois en l'occurrence de grande taille. On sait en effet que le mot
« million »,
comme le mot français « million », est un dérivé de l'italien. La base est constituée du mot « mille » auquel a été ajouté le suffixe « onne » pour devenir « milione » et ainsi signifier littéralement « un grand millier ». Et le melon,
melon
étant une plante dont le fruit de forme ronde est lui aussi de grande taille, assurément un des plus gros fruits comestibles que l'on connaisse, on peut imaginer que c'est donc pour cette raison que les Tchèques appellent
melon, million korun,
soit un melon pour un million de couronnes. Voilà, et c'est donc sur cette supposition, une de plus, que s'achève ce Tchèque du bout de la langue, consacré donc à la couronne tchèque. On se retrouve dans 2 semaines pour d'autres découvertes relatives à la langue tchèque. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Dans le cadre de notre émission littéraire, Václav Richter vous invite à visiter une exposition qui retrace l'histoire, le présent et même l'avenir de Městská lidová knihovna, bibliothèque populaire municipale de Prague, institution incontournable de la vie intellectuelle de la capitale tchèque.
Rencontre littéraire. Il y a 120 ans, la bibliothèque municipale de Prague ouvrait ses portes. Cette vieille institution fête son anniversaire par une série de manifestations et cherche à se présenter au public comme une bibliothèque traditionnelle, c'est-à-dire une salle de prêt et de lecture, mais surtout comme un centre informatique du 21e siècle. Les premières salles de prêt et de lecture de la bibliothèque municipale publique s'ouvrent en 1891 dans le quartier de la nouvelle ville de Prague, rue Nazderaze. Son fonds compte 3 370 livres. Par la suite, la bibliothèque est transférée dans un édifice historique de la vieille ville de Prague. Dans les années 1920, la vieille maison est démolie et en 1928 est inauguré à sa place un édifice moderne de l'architecte František Rojt. Ce palais, dont la façade d'une sobriété élégante forme une des dominantes de la place mariale de Prague, abrite la bibliothèque encore aujourd'hui. Ce n'est cependant que la proverbiale partie visible de l'iceberg, car la bibliothèque centrale a également 42 succursales à Prague et dispose aussi de 2 bibliobus qui apportent des livres dans des quartiers les plus éloignés de la ville. Actuellement, la bibliothèque compte 504 employés et dans ses fonds se trouvent 2 334 726 objets. À l'ère de l'informatique, il ne peut pas s'agir que de livres. Dans ces catalogues, on trouve désormais aussi cartes géographiques, CD, DVD, cassettes, tableaux, partitions et documents électroniques. Pour célébrer son 120e anniversaire, la bibliothèque s'est offert une exposition que le public peut voir actuellement dans la salle de la rue Vesmečka à Prague. La commissaire de l'exposition, Michaela Losikova, présente les objets retraçant l'histoire et le présent de cette vénérable institution.
Ici, nous voyons les livres et les documents du département de cinéma et de théâtre et aussi les œuvres graphiques de notre artothèque. Chaque vitrine a son thème. Ici, une partie de la vitrine est consacrée au dramaturge, poète et chanteur Jiří Suchý et à son partenaire de scène Jiří Šlitr. Et la seconde partie est réservée au théâtre Jara Zimmermann de Prague. Ici, nous présentons les Pragensia, c'est-à-dire des livres et les documents sur Prague, et aussi les sources d'informations en ligne, comme par exemple notre programme sur le web intitulé « Prague dans la bibliothèque ».
Pragensia et online zdroje, jako je třeba náš web Praha v knihovně.
L'artothèque de la bibliothèque municipale est une collection de livres d'art, de gravures et d'œuvres graphiques qui sont mises à la disposition des lecteurs. Ils peuvent emprunter ces œuvres d'art, à l'exception des gravures les plus précieuses et de celles qui ne sont pas encadrées, et peuvent les garder pendant 6 mois à la maison. Les auteurs de l'exposition présentent aussi les sections spéciales de la bibliothèque, dont celle du cinéma, du théâtre et de la musique. D'autres vitrines sont réservées aux ouvrages rares et précieux et aux éditions spéciales pour bibliophiles ornées d'illustrations et de gravures. Il y a entre autres plusieurs exemplaires du poème « Mai » de Karel Hynek Mácha, œuvre fondamentale de la poésie tchèque du XIXe siècle, et même sa première édition parue en 1836. D'autres éditions du chef-d'œuvre de Karel Hynek Mácha sont illustrées par Jan Konoupek, Christian Codette et Toyen, muse du mouvement surréaliste. La bibliothèque municipale se présente également comme productrice de livres numériques que les visiteurs peuvent lire sur leur tablette. Le visiteur de l'exposition fait donc aussi la connaissance de cette e-bibliothèque qui est la section de numérisation de la bibliothèque municipale. Deux ordinateurs sont mis à la disposition du visiteur pour lui permettre d'entrer également dans le système Kramerius et de lire en ligne des périodiques et des monographies historiques. Les auteurs de l'exposition n'oublient cependant pas non plus les lecteurs classiques pour lesquels ils ont créé un coin avec deux fauteuils sacs où les visiteurs peuvent lire, se détendre et même s'allonger s'ils en ont envie. Et la commissaire Mikhaila Losikova invite les visiteurs à descendre au sous-sol où se trouvent les objets les plus précieux de l'exposition.
Voici notre slogan, un livre ouvre un autre, ce qui veut dire que quand vous commencez à lire un livre, il devient pour vous une porte vers d'autres livres. Les objets ici sont présentés dans l'ordre chronologique. L'objet le plus précieux que vous pouvez voir ici est sans doute la Bible de Prague, un incunable de l'an 1488 accompagné de la Madone du couvent de Strahov de la seconde moitié du XVe siècle. Le livre est ouvert au chapitre des psaumes et on y voit de belles initiales. Chaque psaume s'ouvre par une initiale.
La Bible de Prague, qui fait partie des archives historiques de la bibliothèque municipale de Prague, est la plus ancienne Bible tchèque sortie de presse et probablement aussi la plus ancienne Bible slave imprimée. C'est le prêtre Prochaska qui aurait fait don de cette Bible à la bibliothèque en 1936, information pas tout à fait sûre, et qui doit être encore vérifiée par les historiens. L'état actuel de cet incunable précieux est le résultat du travail des employés des archives historiques de la bibliothèque municipale, qui se trouve dans un bâtiment du quartier de Malastrana, tout près du château de Prague. C'est dans cet édifice, mis à la disposition de la bibliothèque par la société Pražská plinárenská, que se trouve, outre les archives historiques, aussi un atelier de restauration de documents anciens. Les visiteurs de l'exposition peuvent suivre à l'écran le travail minutieux et ingénieux des restaurateurs. Les auteurs de l'exposition n'oublient pas non plus les conséquences des inondations catastrophiques qui ont déferlé sur Prague et la Bohême en 2002. La bibliothèque municipale n'était pas préparée à une catastrophe d'une telle ampleur et une partie de ses archives, y compris la Bible de Prague, se retrouvait sous l'eau. Mikhaila Losikova évoque ce moment difficile de l'histoire de la bibliothèque.
Avant la crue, la section des archives se trouvait dans le quartier de Holešovice. Malheureusement, la police ne nous a pas permis d'entrer dans cette zone pour sauver les ouvrages les plus précieux. Après la crue, la Bible a donc dû être restaurée. Les travaux de restauration ont duré longtemps et l'incunable n'est revenu dans les fonds de la bibliothèque qu'au bout d'un an et demi. Nous venons de publier un livre sur l'existence mouvementée de cet ouvrage intitulé « L'histoire de la Bible de Prague ». Le lecteur y trouvera des bandes dessinées sur les aléas de l'existence de ce livre vénérable, ainsi que des articles sérieux sur les différentes parties de la Bible. Il y trouvera également les reproductions de ces pages.
L'histoire de la Bible de Prague est d'ores et déjà à la disposition de ceux qui désirent la télécharger sur le web de la bibliothèque municipale en tant qu'e-livre et sera bientôt disponible pour le prêt à la bibliothèque centrale et dans ses succursales.
Chers auditeurs, c'est par cette rencontre littéraire consacrée aujourd'hui à la Bibliothèque municipale de Prague que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková, réalisation Irena Viernochová. Bonne fin de week-end, au revoir, naslyšenou. Radio